Nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi et pourtant, tu nous as créés et tu nous as créés aussi à l'image, à ton image, revêtir Christ. Seigneur, je remets entre tes mains ces paroles que nous allons partager. Que tu nous acceptes avec nos faiblesses. Tu m'acceptes avec mes faiblesses. Et que au-delà des mots, tu touches notre cœur, tu touches mon cœur, moi le premier, afin que ces paroles ne s'limitent pas à une culture intellectuelle, à un enrichissement intellectuel qui va partir dans la tombe, mais que ce soit une vie, la vie de tous les jours. En ton saint nom. Amen. Alors, juste un témoignage concernant il y a 2 semaines, quand nous avons évoqué le Christ à travers la Genèse, j'ai eu une discussion avec notre sœur Dorothea. Et c'était un encouragement quand elle m'a dit à la fin, mais Abdel, tout ce que tu as dit, tu m'as rien appris, je le sais. Mais quelle joie! Ça veut dire que nous nous retrouvons dans une communion où nous avons tout en Christ, et quand on partage une parole, ça ne fait que dire, mais je le sais. Et bien, c'était une confirmation et un encouragement pour moi personnellement que je suis en union, dans une communion avec une sœur qui m'apprend, comme quoi je ne lui ai rien appris. C'est quelque chose qui est en elle qu'elle a découvert. Et bien, c'est un encouragement pour nous tous. Alors, notre partage d'aujourd'hui, ce sera la continuité de ce que nous avons commencé il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, le 27 octobre. Suite, et je suis pour rien, je mets la responsabilité sur notre frère Roland. C'est lui, dans notre réunion de mercredi, a suggéré si on pouvait revenir sur la Genèse, etc. Oui, je mets la faute toujours sur les autres. Et notre intervention a commencé pour la première, comme le titre de cette intervention, de ce partage, c'est Christ, l'aboutissement de la création. Ça, c'est le titre. Et je vous avais dit que ce sera en 2 parties. La première, c'était il y a 2 semaines, le Christ à la lumière de la Genèse. On a effleuré un peu une réalité qui nous dépasse et qui, dont l'objectif est de faire très attention à ne pas réduire notre Seigneur seulement à un être historique. Hein? On devient tous des historiens, on aime bien être des historiens, on parle du Seigneur. Ben voilà, quelqu'un qui a vécu il y a un peu plus de 2000 ans, il est venu au milieu de nous, et il est mort sur la croix, et grâce à lui, grâce à ce qu'il a fait, mais maintenant j'ai la vie, maintenant je peux vivre dans le bonheur. Vous voyez qu'on réduit tout à nous, moi. Le Christ, et nous l'avons vu en lisant Colossiens, et je vous invite à lire vraiment la lettre aux Colossiens, elle nous dépeint un Christ cosmique, un Christ qui dépasse tout ce que nous pouvons penser. Un Christ ne peut pas être réduit à notre façon de penser. Donc notre première intervention, notre échange il y a 2 semaines, c'était ce plan de Dieu, ce Christ qui nous dépasse, voilà, qui nous dépasse. Et bien cette deuxième partie et la dernière, donc c'est sur la dernière, nous allons nous focaliser sur l'homme, sur nous, l'homme dans cette création. L'homme dans cette création. Et je prends comme base d'étude ou de partage, si vous voulez, le psaume 8 que j'ai lu tout à l'heure. Le psaume 8. Je le relis. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. L'objectif, encore une fois, quand nous partageons la parole de Dieu, encore une fois, ce n'est pas encore un enrichissement culturel, cérébral. Pour cela, je peux vous conseiller de suivre des cours dans une université. Et si vous ne voulez pas vous déplacer, vous savez, sur le net, maintenant, on peut suivre des cours, si vous voulez vous enrichir. Mais limiter notre parole à seulement à ces paroles que nous allons apprendre, des paroles qui nous mènent vers une formation individuelle, même diplômante, Bac+25, si vous voulez, ça ne donne pas la vie. Limiter la connaissance de la Bible à une formation, à un enrichissement intellectuel, c'est réduire encore une fois la parole de Dieu à ce que nous pensons, à des concepts, à des thèses. Dieu est vie. J'aime bien cette définition qui dit « Dieu ne s'explique pas ». Dieu se rencontre, Dieu se vit. L'objectif, encore une fois, de nos échanges, c'est de dénoncer les limites du soi ou des soi-disant vérités avec un petit v. Chacun a sa vérité. Nous pouvons discuter tous ensemble aujourd'hui et chacun pourra défendre sa vérité. Une vérité restera un petit v si cette vérité est issue de notre logique, qui s'érige comme un dieu. Et devant tous ceux nous semblables, nous sommes capables de défendre par les paroles. Et quand ça ne suffit pas, on peut même prendre les armes. L'objectif dans nos partages, c'est de dénoncer des grands mensonges qui nous font croire que tout doit passer par le filtre intellectuel. Comme si nos frères et sœurs qui n'ont pas fait d'études, mais ne connaissent pas le Seigneur. Le filtre intellectuel, un filtre limité, perfectible, aliéné, qui cherche à expliquer coûte que coûte l'invisible, l'éternel. Ce filtre veut expliquer le spirituel. Quelle insulte! Nous ne rejetons pas les capacités cérébrales, encore une fois. C'est un don de Dieu. La science est un don de Dieu. La théologie est un don de Dieu. Mais si nous faisons de ça le filtre indispensable pour comprendre Dieu, c'est là où le mensonge débute. N'essayons pas de faire parler coûte que coûte la parole de Dieu. Nous faisons des études pour dire « il faut absolument que je fasse parler la parole de Dieu ». Il faut laisser la parole de Dieu nous parler. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous pouvons inventer toutes les méthodes, leur donner des titres qu'on veut. Nous essayons de faire parler à travers le filtre scientifique, historique, ce qu'on veut. Mais ça reste humain et ça réduit la parole de Dieu. La parole doit nous parler. Et la parole de Dieu nous dit aussi, Dieu nous dit qu'il espère, qu'il souhaite que cette parole soit écrite dans notre cœur. C'est ça. C'est que la parole écrite dans notre cœur et elle nous parle. Au lieu de faire parler la parole de Dieu coûte que coûte, c'est utile. Je ne dis pas c'est inutile. Mais dire que quand je fais parler la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est réduire encore une fois Dieu à nos concepts. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde, on peut faire un constat. Chacun pourra faire son constat. Je regarde le temps en même temps, voilà, pour ne pas déborder. On peut dire même rien ne va. Alors tout dépend où se situe. Au niveau écologique, c'est une catastrophe. La paix, ah ben alors là, on peut voir ce qui se passe dans le monde. Au niveau économique, alors la morale, alors là, n'en parlons même pas. Mais qui est la cause dans tout ça? C'est l'homme. Et qui veut trouver des solutions à ces problèmes? C'est l'homme. Vous vous rendez compte? Il est la cause de ces catastrophes et il s'érige en Dieu pour trouver une solution. L'homme veut devenir un Dieu sur terre. Non, pas il veut devenir. Il se considère comme un Dieu sur terre. Les droits de l'homme, bien sûr qu'on est tous pour les droits de l'homme, mais ce droit rend l'homme, lui donne une position de divin. L'homme au centre du monde. Il faut que tout passe par l'homme. C'est l'homme qui trouve une solution. C'est l'homme qui a la solution. Mais en fait, il remplace Dieu par lui-même. Mais est-ce que l'homme est créé pour cela? Et c'est ça que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons effleurer encore cette vérité qui nous dépasse. Quand j'ai préparé pour aujourd'hui, je ne vous compte pas le nombre de pages. Après, il faut réduire tout cela pour que ça ne dure pas, comme d'habitude, 30 minutes. Alors, vous m'excusez si au cas où c'est réduit, mais nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet mercredi soir pour échanger, pour discuter, aller plus profondément s'il le faut. L'homme, tel qu'il est créé, il est créé pour rencontrer son Dieu. L'homme, quand il est créé, quand je dis l'homme, l'homme et la femme. Tout être humain créé sur terre, il est créé pour rencontrer son Dieu. Et quand l'être humain ne rencontre pas son Dieu, il n'a pas atteint l'objectif. Donc il demeure aliéné, malade. Donc on peut s'ériger en tout ce qu'on veut sur terre, mais si nous ne rencontrons pas Dieu, nous le rencontrons en qui? En Christ. Eh bien nous n'avons pas atteint cet objectif. Et toute la parole de Dieu, quand nous la lisons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit ce projet comme en filigrane. Vous voyez, quand on a lu la Bible, quand on lit les différents livres composent cette ville, on voit ce message. Et c'est ce message-là qu'on appelle le message en devenir, c'est-à-dire l'homme est créé pour rencontrer Dieu, qui est présent partout. Et c'est notre objectif. Et si nous sommes réunis ce matin, parce que nous sommes dans ce cheminement qui va se terminer par la métamorphose finale, quand nous allons rencontrer notre Dieu, quand l'Église ira rencontrer le Seigneur, vous voyez, et quand nous allons le retrouver dans l'éternité, tous ensemble, et là nous nous réjouirons pour l'éternité. N'oublions pas cette vision finale. C'est ça qui doit nous booster en fait. C'est la finalité. La finalité, c'est quand tout sera réuni en Christ, tous ensemble ici, au-delà de notre corps. C'est ça la finalité pour l'éternité. Quand on sera réuni en Christ, c'est la résurrection finale. C'est cette communion, union totale avec Dieu en Christ. Et c'est ça qui nous anime ce matin. Mais, tant qu'on est sur terre, il y a cette réalité qui est en devenir. Le premier exemple, on le trouve même, j'ai déjà évoqué, Adam. Pourquoi on l'appelle Adam dès le départ? Et encore une fois, veuillez m'excuser si je reviens toujours à la langue hébraïque, je vais faire très attention, parce que j'allais dire ce matin, il y a un frère qui surveille tout ce que je dis, parce qu'il va dans la recherche profonde. C'est Louis. J'ai découvert qu'il est dans la recherche de l'hébreu. Sans oublier notre frère Victor. Alors du coup, ça donne encore plus, je dirais, d'inconsistance et d'importance à ce que nous allons partager. Adam. En hébreu, Adam est composé de trois lettres. Aleph, Dalet, Mim, si vous voulez, la lettre A, la lettre D et la lettre M. Et ces trois lettres préfigurent le devenir de l'homme. Dès le départ, tel que Dieu le désire, c'est-à-dire cheminer à travers la lettre A, Abraham, la lettre D, David, pour arriver à M, le Messie. Déjà, dès le départ, dans l'Adam, le projet est déjà annoncé. Ça rejoint ce que nous avons dit il y a 15 jours, quand on parle de Christ, qui est annoncé dès le premier verset de la Bible. Vous voyez, encore une fois, ça dépasse ce que nous pouvons penser de notre petite vie chrétienne. Nous sommes appelés à un plan, mais qui dépasse tout ce que nous pouvons penser. C'est glorieux à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Et des fois, nous restons à nos limites. On dit, ah, oh, je suis chrétien, ben, Dieu, Seigneur est mort pour moi, donc il vient me guérir, et il va me donner un boulot, et, bah, tiens, je vais être, je sais pas, moi, je vais être bien dans la société. Vous rendez compte à quoi on réduit Dieu? Nous sommes appelés à un plan grandiose, mais j'ai envie de le crier. Nous sommes appelés à une union avec le Père dans les lieux célestes pour l'éternité. Et cette plan est déjà annoncé dès le premier verset de la Bible et annoncé dès le premier terme, Adam. Deuxième, Adam après Adam. Je veux vous parler d'un autre personnage qu'on ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Moi le premier, hein, donc je ne sais pas. Nous nous intéressons tellement à Adam, Ève, Abel et Cain, mais on oublie Seth. Vous avez entendu parler de Seth. Genèse 4, 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Il arrive, ouais, Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Selon la Bible, hein, selon la Bible, tous les hommes sont descendants de Seth. Seth provient d'une racine hébraïque qui veut dire fondement. Seth est le fondement de l'humanité. Plus clairement, Seth est le devenir de l'humanité. Seth, ça préfigure Christ. Christ, il est déjà annoncé. Encore une fois, oui, pour la énième fois, on a tellement cité Christ. D'ailleurs, c'est à partir de Seth que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4, 26, je lis. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Un message pour nous. Seth est le fruit de la confrontation entre Abel et Cain. Abel et Cain ne sont pas deux êtres séparés. Encore une fois, c'est le raisonnement historique, ça. Mais ce sont les deux facettes de chacun de nous. Tous ici, nous sommes des Abel et des Cain. Nous sommes tous à la fois des Abel et des Cain. Les deux ne sont pas l'objectif final de Dieu. Car les deux relèvent de la nature humaine adamique, d'origine, qui est destinée à mourir, à se métamorphoser pour laisser la place au Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul apte à plaire et satisfaire Dieu. Il est facile de définir Cain comme étant le premier meurtrier. Le meurtre étant l'expression d'un certain égoïsme qui rejette l'autre. C'est ça le meurtre, la définition de meurtre encore dans l'hébraïsme. C'est le rejet de l'autre par l'égoïsme. Et ce rejet peut aller jusqu'à détruire l'autre. Mais déjà, juste le rejet, avant même d'aller dans l'acte de détruire, c'est déjà un meurtre. D'ailleurs, le sens même du nom Cain est à la fois artisan, forgeron et surtout possession. Nous sommes tous des meurtriers par nature. Quand nous nous tenons à nous-mêmes, quand nous tenons à nos biens, quand nous donnons de l'importance à ce qui nous appartient, nous sommes des meurtriers d'après la parole de Dieu. Certainement pas jusqu'à ôter la vie de l'autre, certainement dans notre comportement, mais par nos mensonges, nous tuons la vérité. Par la tromperie, nous tuons la fidélité. Par la haine, nous tuons l'amour. Et je continue. Quant à Abel, bien qu'il paraît comme un personnage de bien, c'est comme ça qu'on le dépeint, Abel, même s'il représente le côté bon de l'humanité, Dieu le considère comme une futilité. Dieu ne veut pas de nos sacrifices. Dieu ne veut pas de notre religiosité. Dieu nous désire nous-mêmes, et c'est celui-là, le sacrifice que Dieu veut. D'ailleurs, Abel, encore une fois, Abel, veut dire le souffle qui passe. Abel, le souffle qui passe. Abel veut dire buée, vapeur. Abel veut même dire vanité, vanité des vanités. Je vous invite à lire l'Ecclésiaste, chapitre 1. Vous verrez, l'Ecclésiaste parle de cette vanité des vanités. Abel et Cain sont deux penchants de la nature humaine. Un penchant pour soi, dans le monde, et un penchant pour Dieu. C'est inné, on est né avec. Mais ces deux penchants ne répondent qu'à la question, quoi est l'homme? Ces deux penchants ne définissent pas qui est l'homme, c'est quoi est l'homme. Abel et Caïn représentent l'humanité originelle, un brouillon destiné à se métamorphoser. C'est une humanité destinée à être métamorphosée et en Christ par une nouvelle humanité représentée par Seth, qui est le message prophétique du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible. Et je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Seth est le pourquoi, c'est le résultat de la confrontation entre Abel et Caïn. Nous sommes destinés à devenir des Seth, mais nous sommes tous des Abel et Caïn. C'est seulement en Christ que nous pouvons réellement invoquer le nom de l'Éternel. C'est seulement en Christ que nous pouvons invoquer le nom de l'Éternel, comme nous venons de lire dans Genèse 4, 26. Seth eut un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seth est le nouveau fondement de l'humanité. Seth est l'image de l'aboutissement de l'humanité selon le plan de Dieu. Et ce n'est pas pour rien, que les deux lettres qui forment le mot Seth sont les deux dernières lettres de l'alphabet hébraïque. Shin et Tav. C'est-à-dire qu'il y a un aboutissement. C'est la représentation de l'aboutissement de la création, l'aboutissement en Christ. Nous, l'homme, l'être humain, chemine vers Christ. Mais s'il n'atteint pas Christ, il a raté sa vie. Il a raté la cible. Voilà, c'est le mot péché. L'homme, Abel et Caïn à la fois, est destiné selon la volonté de Dieu à devenir Seth. Voilà le message de Christ qui est annoncé aussi dans la Genèse, qui complète ce que nous avons dit. Dire que Christ, seulement réduire Christ à une simple solution à nos bobos, que Dieu nous pardonne, parce qu'il est plus que ça, le Christ. L'homme, Abel et Caïn, à la fois est destiné selon la volonté de Dieu à devenir Seth, qui est la nouvelle humanité créée à l'image de Dieu. Et tant que l'humanité n'atteint pas cette réalité, elle demeure aliénée, vivant dans un mensonge qui lui fait croire qu'elle peut se suffire à elle-même. Regardons le monde. Et tout le monde pense que l'homme est capable de trouver une solution au mal dans le monde. Mais pas du tout, c'est un mensonge. Comment un être aliéné peut soigner le monde qui l'a rendu aliéné ? Il ne faut pas s'étonner si le monde tourne en rond. L'humanité, c'est-à-dire Abel et Caïn ensemble, l'humanité, se rattache coûte que coûte à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle crée sa propre logique. Elle donne la définition bien et du mal. Elle dit voilà la définition du bien, voilà la définition du mal. Voilà, c'est la logique humaine. Ça, c'est Abel et Caïn ensemble. Seth, c'est le devenir de l'homme en général. C'est le devenir de l'homme et de la femme en particulier. Seth se rattache à l'arbre de vie, qui n'a rien à voir avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'oublions pas que l'arbre de vie était déjà là avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. C'était notre deuxième point. Vous voyez, en Adam, le plan de venir est déjà annoncé. Seth, voilà un message encore de notre devenir, de l'homme. Il est créé pour rencontrer son Dieu. Nous allons passer à un troisième point. Et en tout, il y en a quatre. Le troisième, nous allons lire ensemble Genèse 1, versets 26-27. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce passage, nous le connaissons aussi. L'homme par nature. Quand je dis l'homme, encore une fois, c'est H majuscule. Hein. Donc, l'homme et la femme, hein, par nature, est formé comme un aimant attiré vers son créateur. Dit autrement, Chaque être humain qui naît, il est attiré par son Créateur. Il a cette éternité divine en lui, depuis sa conception. D'ailleurs, l'attitude d'insatisfaction permanente de l'homme reflète un vide qui ne peut être comblé que par celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. Rappelez-vous, on avait dit, même celui qui se dit athée, quand il y arrive une difficulté, un malheur, qu'est-ce qu'il dit ? Oh mon Dieu ! Vous voyez, c'est paradoxal quand même. Comme l'homme est formé, mais destiné à revêtir l'image de celui qui l'a créé. C'est l'un des sens du passage que nous venons de lire, qui annonce le projet divin pour l'homme. Nous allons voir dans ce même passage, on voit encore ce projet pour l'homme, pour qui créer, nous sommes créés pour rencontrer notre Dieu en Christ. Quand on ne rencontre pas Christ, nous avons raté notre vie. Cette fois-ci pour l'éternité, peut-être. Je relis quelques passages. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme. Et plus loin, c'est marqué, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'utilise pas le même verbe dans ce passage ? Il faut, il dit faisons, et l'autre il dit créer. Les traducteurs, pourquoi on n'a pas utilisé le verbe créer ? Pourquoi ils n'ont pas dit, Dieu dit, créons l'homme, et Dieu créa l'homme à son image ? Non, la traduction dit, faisons l'homme, Dieu créa l'homme. Tout simplement parce que ce ne sont pas les deux verbes utilisés en hébreu. Deux verbes différents. Le plan de Dieu est en mouvement. Les passages de la Genèse 1, 26, 27 que nous venons de lire montrent le devenir de l'homme. L'homme, avant d'atteindre le grand projet divin, commence par s'en former. C'est le faire. C'est ce que la Bible appelle le premier Adam. Le faire, le former, c'est le premier Adam. L'homme naturel, biologique, avec ses capacités ascensorielles, l'homme formé est annoncé et lancé dans le chapitre 2 de la Genèse, verset 7. Hein, nous pouvons le lire. Hein. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Ça, c'est l'homme formé. Hein. Cet homme formé est doté de qualités humaines extraordinaires. Hein. L'être humain aujourd'hui. Hein. Il n'est pas coupé de son Créateur, car il possède le souffle divin. Oui, il a le souffle de Dieu. Dieu étant éternel, ne peut insuffler qu'un souffle éternel à l'homme. Seul l'homme a reçu ce souffle. Les animaux n'ont pas reçu ce souffle, même s'ils sont créés le même jour que l'homme. C'est ce qui fait la singularité de l'homme. Nous avons le souffle de Dieu. Le Créateur, en formant, ou en faisant, si vous voulez, l'homme a mis en lui un souffle d'éternité qui ne peut que l'attirer vers son Créateur. C'est ça que je disais tout à l'heure. Tout être humain, quand il est né, il est attiré vers son Créateur comme un aimant, parce que grâce au souffle qui est dans chaque être humain. Et c'est ça qui fait que chaque être humain, consciemment ou inconsciemment, il cherche son Créateur. Tout être humain sur Terre cherche son Créateur. Il ne le connaît pas, il n'arrive pas à l'atteindre, mais il le cherche d'une manière, j'allais dire, instinctive. D'ailleurs, dans l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, je lis ceci. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait du commencement jusqu'à la fin. Chaque être humain possède en lui une éternité, c'est ce vide, c'est ce souffle qu'il a mis en Dieu. On sait, nous sommes attirés par notre Créateur, mais on n'arrive pas à l'atteindre de nous-mêmes. C'est en nous, ça. Ou dans les Actes, chapitre 17, verset 27, les Actes, chapitre 17, verset 27, ou je lis même à partir du 26, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils, les êtres humains, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en nous, ça, chercher sans Dieu, sans Créateur. Juste sur ce principe, le rejet de mon semblable est synonyme de rejet du souffle de Dieu. Et là, on trouve le sens « aimer son ennemi ». J'aime mon ennemi tout simplement parce qu'il a le souffle de Dieu comme moi. Je ne peux pas le rejeter. Le détester, c'est quelque part détester le souffle de Dieu. C'est quelque part détester mon Créateur. Aimer son ennemi, aimer son semblable. C'est tout simplement rejeter Dieu et sa création. Tout être humain possède le souffle de son Créateur. Ce qui est paradoxal, c'est que Dieu, en soufflant cette éternité en l'homme, a créé en même temps en lui un vide qui l'attire vers son Créateur. Nous avons parlé de ce vide dans la culture hébraïque. Ce vide, bien entendu, ne peut être rempli que par Dieu lui-même à travers son esprit. C'est ce vide que les humains appellent le néant. Quand on n'a pas de réponse, quand on n'arrive pas à expliquer Dieu, le néant. Et qui reflète aujourd'hui l'incapacité d'accéder à la vérité ultime qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Le verbe « il forma », comme on l'a vu tout à l'heure à la Genèse, se lit en hébreu, excusez-moi parce que je reviens toujours à l'hébreu, « vaïster »,« vaïtzer », voilà, le mot en hébreu. Mais c'est, je le prononce, c'est juste parce que, pour donner une indication du mot en hébreu. Un mot qui comprend normalement, dans l'écriture normale, un seul « y », un seul « yod ». Je te laisse, lui, continuer tes recherches. Dans ta chambre. Un mot qui comprend d'habitude un seul Y, un seul Yod. Mais comme par hasard, là, comme s'il y avait une faute d'orthographe, il y a deux Y, deux Yod. À première vue, on pourrait prétendre que ce mot comporte une faute d'orthographe. Rappelez-vous, comme le premier verset, on pensait que c'était une faute d'orthographe, donc on essaie de traduire, de trouver un mot qui va. Mais les penseurs juifs nous donnent une toute autre interprétation. C'est délibéré. Ce double yod, ce double y, qui ne concerne que l'homme, parce que quand il s'agit de former les animaux, il n'y avait qu'un seul y. Mais quand dans la Genèse est marqué « former l'homme », comme par hasard, il y a deux y qui apparaissent dans le verbe. Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe, là? Pas du tout. On nous dit que ce double yod, ce double y, concerne l'homme, il ne concerne que l'homme, et fait référence à une dualité, à deux choses qui sont nées avec l'être humain. C'est quoi ces deux choses? C'est ce que les rabbins appellent Yetzri, Yotzri. En fait, c'est deux penchants. Deux penchants. Le penchant vers moi-même, dans le monde, la possession. Et l'autre penchant, je suis toujours en... Ma nature recherche le Créateur. C'est ça les deux Y. D'ailleurs, ce penchant qui concerne que l'homme fait en sorte que il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Tant qu'on n'a pas rencontré Christ, ça peut être la possession. Je m'attire vers moi-même, je cherche à posséder. Oui, c'est l'homme qui érige en Dieu sur terre. Et l'autre penchant, quand on rencontre Christ, mais c'est Christ qui règne en nous et qui domine le reste. Tout ça pour vous dire que le plan de Dieu, il est en devenir. Formé qui mène vers le créé. Deux verbes en traduit en français, mais qui veut dire quelque chose qui est limité, mais c'est destiné à l'éternité. Dans Genèse, d'ailleurs, Genèse 2, chapitre 1 à 3, je peux lire, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. » Oui, le mot « faire » qu'il avait faite. « Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Tant que c'est les six jours, on parle de faire et former. Mais quand c'est le septième jour, il est question de créer. Tout ça pour nous dire. Et nous sommes créés à la veille du septième jour. C'est le repos. Le repos, c'est quoi? C'est qui? Plutôt, j'aime que Dieu me pardonne le quoi. C'est qui? Mais c'est Christ. Tant que nous n'avons pas rencontré le Christ le septième jour, nous sommes tous dans l'état animal, destiné à périr. Il n'y a aucun objectif dans la vie. Nous sommes créés quand nous rencontrons Christ, l'Esprit qui nous habite le septième jour. C'est ça le former et le créer. Oui, le message dit dans la Genèse, il y a déjà ce plan. Le plan de Dieu est un plan en mouvement, une révélation qui se développe entre le premier homme formé, Adam, et le premier homme créé, le Christ. Entre les deux hommes, Dieu met une révélation en mouvement qui s'achève sur une croix, où l'homme naturel rencontre son Créateur à travers une mort à soi-même et une nouvelle vie à la stature de celui qui reflète Dieu, Jésus-Christ. Voilà la croix. Le premier homme, et je vais peut-être m'attirer des détracteurs, donc ils ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est normal, je l'accepte. Le premier homme est faillible. Il y en a qui défendent l'idée que Adam était parfait. Alors je pose tout de suite la question. Comment quelqu'un de parfait peut pécher? Et je ne vais pas plus loin. Le premier homme faillible qui est formé est placé dans le jardin d'Éden où il a succombé à la tentation. Le deuxième Adam, créé, Jésus-Christ, a subi la même tentation dans le désert durant les 40 jours, mais cette fois-ci, il en est sorti victorieux. Ce sont les mêmes, il y en a un qui a chuté, et le deuxième est sorti victorieux. Christ est la véritable image de Dieu. Christ est l'origine, le cheminement, l'aboutissement de toutes choses. Toute chose trouve son sens en Christ, et en dehors de Christ, rien n'a de sens. Tout est buée, tout est vapeur, tout est vanité. Colossiens 1, versets 15 et 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Continuons-nous à réduire Christ à cet être historique qui est venu sur terre après et il est crucifié, ressuscité. Il est plus que ça. Colossiens 1, 15 nous dit plus que ça sur Christ. Éphésiens 2, 10. Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Voilà le devenir de la Genèse. Nous sommes formés mais créés pour devenir des petits Christ, entre guillemets. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hébreux 2, 10. En effet, celui par qui et par qui toute chose existe, Christ. Colossiens 1, 16, 19. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, je l'ai lu, hein, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Christ. Je vous invite même à lire dans les Corinthiens. En effet, le premier être créé à l'image de Dieu, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous destine à nous unir à cette image, à revêtir Christ. La communion est spirituelle. Elle doit imprégner notre conduite humaine en la transformant. Ce changement est perceptible. Il peut se manifester par le changement comportemental tel que l'amour, la patience, l'espérance et la paix. Et là, je vous invite à lire Galates 5.20. Vous avez des fruits. Vous pouvez relire Galates 5.22. C'est un changement qui intervient directement sur l'âme humaine qui se libère de son aliénation pour trouver sa place harmonieuse sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Mais cette libération ne peut se réaliser qu'à travers un brisement que Dieu permet à travers les épreuves de la vie. Oh oui, humainement, personne n'aime les épreuves. Celui qui l'a ici me dit, j'apprécie la souffrance, je lui conseille d'aller voir un psychiatre. Humainement, nous ne supportons pas, et moi le premier. Et ce qui est paradoxal, malgré cela, Dieu utilise l'épreuve et la souffrance pour nous faire rentrer dans une métamorphose où nous réaliserons l'objectif quand on sera avec lui. Vous voyez, ça nous dépasse. Ce brisement amène à un mur de désespoir normal et rend apte à recevoir la véritable vie du Seigneur Jésus-Christ. Ce brisement ne peut débuter en nous que si nous réalisons que c'est déjà fait. C'est ça le paradoxe. Ce brisement, pour qu'il se fasse en nous, porter sa croix, il ne peut débuter réellement en moi que si je réalise au fond de mon être que c'est déjà fait. Nous sommes déjà assis à la droite du Père, nous sommes déjà morts en Christ, nous sommes ressuscités, tout est accompli en Christ. Réaliser cela, c'est commencer à porter sa croix pour le voir vivre, se concrétiser dans notre vie de tous les jours. Une nouvelle vie commence alors. Cette nouvelle vie ne dépend plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais plutôt de l'arbre de vie, c'est-à-dire de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nous sommes appelés à une métamorphose en Jésus-Christ. La vie chrétienne est une métamorphose. Si nous ne nous métamorphosons pas tous les jours en Christ, nous vivons un semblant de vie chrétienne. Christ nous appelle à une métamorphose. Cette métamorphose consiste à revêtir l'image du Créateur comme c'est annoncé dans Genèse 1, versets 26 et 27 que nous avons lu. Nous sommes appelés à revêtir Christ. Pas en tant qu'être historique, non, en tant qu'Esprit de Dieu. Cette communion ne peut se faire que par un seul et unique moyen, par la nouvelle naissance et par le brisement, par la résurrection quotidien issue de la Sainte Croix du Calvaire. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de métamorphose. Nous resterons des chrétiens charnels, des êtres aliénés. Accepter sa mort en la mort de Jésus et ayant cette assurance par la foi que tout est accompli. Mort, résurrection, avec une disparition progressive de sa nature aliénée et l'apparition progressive d'une autre nature régénérée à l'image de Dieu. C'est cette métamorphose quotidienne qui s'achèvera par l'ultime métamorphose quand on ira à la rencontre de notre Seigneur. Je vois que le temps passe, je passe au dernier point qui est court. Ce devenir, il est aussi exprimé par Abraham et Sarah. C'est mon dernier point. Il est court. Vous connaissez cette histoire. Abraham, avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abraham sans le H. D'accord. Tout comme Sarah s'appelait Sarai. Il n'y avait pas de H. Encore une fois, une erreur. Par le plaisir, on a mis H. Mais pas du tout. C'est encore un enseignement qui se cache derrière. La lettre H veut dire « voici » en hébreu. Quand tu dis H, voici. Elle veut dire aussi le. C'est comme si je vous disais, Abraham sans le H, un certain Louis, à lui, quelconque. Avec le H, le lui. C'est le H. Vous voyez la différence? L'article le donne une identité à la personne et une singularité. En tant que chrétien, nous avons cette identité. À travers la lettre H d'Abraham et de Sarah, le projet de Dieu pour l'humanité est annoncé. Encore une fois. Revêtir Christ comme une véritable identité divine. Christ est annoncé. La lettre H en hébreu représente le souffle de vie qui transforme notre âme. C'est tout simplement l'Esprit Saint. De plus, cette lettre H est présente deux fois dans le tétragramme imprononçable à l'origine et que nous prononçons Yahvé. Et bien dans Yahvé, il y a deux H. Ces deux lettres apparaissent dans le tétragramme comme deux poumons qui respirent la vie divine. Avant qu'Abraham, sans H, ne reçoive la lettre H et s'appelait Abraham, il était dans un monde où on vénérait des idoles de pierre, faites de mains d'hommes et pourtant élevées au rang de divinité. Il a fallu que Dieu l'appelle et lui demande de quitter sa patrie pour se diriger vers une destination inconnue. Il faut lire, c'est un enseignement derrière les mots. Et c'est au bout d'un long cheminement jalonné d'épreuves, hein, jalonné d'épreuves et de souffrances, et surtout de coupures et de détachements de son ancienne vie, que Dieu change son nom en l'appelant Abraham avec un H. C'est à l'âge de 90 ans que Dieu s'est apparu à Abraham en lui demandant d'être intègre et de marcher devant sa face. Et c'est suite à la repentance sincère d'Abraham que Dieu décida de l'appeler Abraham avec un H. C'est un enseignement pour nous. À travers Abraham et Sarah, Dieu nous révèle son projet pour l'humanité, pour chacun de nous. Ajoutez une lettre H à chacun de nous. Mais ce cheminement n'est possible qu'en acceptant de renoncer à ces idoles qui peuvent être de différentes natures. Nous sommes invités à un voyage qui respire l'amour et la paix et qui chemine vers une nouvelle vie en Christ notre Seigneur. Nous sommes des Adam en devenir. Nous sommes tous des Abraham et des Sarah en devenir. Et nous sommes tous appelés à intégrer le projet de Dieu annoncé dès le premier verset de la Bible. Néanmoins, pour intégrer ce merveilleux projet qui nous fait découvrir notre réelle identité cachée en Christ, nous devons faire de la mort du Seigneur notre propre mort en acceptant de renoncer à nous-mêmes à travers la repentance et la sanctification. Par ces deux principes, nous sommes sûrs de voir notre Créateur face à face, bientôt, pour l'éternité. Nous possédons tous un gène spirituel qui nous attire vers notre Créateur. Mais ce gène recherche qu'une chose, éclore pour qu'enfin Christ règne en nous comme le grain de blé qui doit passer par la mort, qui le brise, le démantèle, afin qu'il ressuscite en sortant de terre, portant beaucoup de fruits. C'est le message de la croix. Au-delà de la croix, il n'y a pas de vie chrétienne, il y a un semblant de vie chrétienne, et un semblant de vie chrétienne ne mène pas vers l'éternité.